Chapitre 33. Lucie s'apprêtait à regagner sa voiture lorsque son téléphone sonna. Charcot. Sa gorge se serra.
Franck ? Vas-y, dis-le-moi.
Lâcha-t-elle dans un souffle en décrochant. Elle percevait sa respiration et le bruit de la circulation. Il devait comme elle marcher dans la rue.
Ils n'ont pas pu débrancher, Lucie.
Elle s'arrêta soudain au milieu de la voie.
Quoi ?
Nicolas a pris un avocat qui était sur place ce matin pour le représenter. Il a eu recours à un référé d'heure à heure auprès du tribunal administratif.
Un référé ?
Le juge a été saisi hier et a bloqué dans l'urgence et sans concertation la décision du médecin avec, pour motif déposé par l'avocat de Nicolas, la privation de paternité. Je te dis pas le bordel à l'hôpital. C'était le branle-bas de combat, complètement irréel. Les parents étaient furax et leurs baveux mouchés.
Coup de klaxon. Lucie se précipita vers le trottoir sous le choc. Elle n'avait plus l'esprit très clair. Elle ignorait si elle devait se sentir soulagée ou pas.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Des experts externes à l'hôpital vont être sollicités et vont devoir rendre un rapport circonstancié sur l'état d'Audra et du fœtus. L'audience aura lieu dans 4 jours, samedi prochain, et au terme de celle-ci, le juge donnera son ordonnance.
Je ne sais pas quoi te répondre. Je suis un peu perdu, là.
Je comprends. Nicolas n'était même pas présent, et il a coupé son téléphone. Sûrement une consigne de son avocat pour que personne ne l'influence. Je vais faire un saut à sa péniche avant d'aller au 36, au cas où. Il aurait au moins pu nous prévenir, bordel. Et toi, t'as pu t'entretenir avec le thérapeute ?
Lucie mit du temps à se replonger dans la réalité de l'enquête.
Oui, il existe un troisième homme dont les cheveux ont blanchi subitement. EMI négative, comme pour Dubois. Fort probable qu'Emadotti l'ait rencontré. Je vais essayer d'entrer en contact avec lui. Peut-être qu'il nous apprendra quelque chose.
Ok, tiens-moi au courant.
Quelques minutes plus tard, elle se réfugia à l'intérieur de sa voiture, avachie sur son siège. Elle ferma les yeux et remplit ses poumons d'air. Tous ses muscles étaient crispés, surtout dans son dos et sa nuque. Quel étrange retournement de situation. Les parents d'Audra et Nicolas désormais se disputeraient le sort de celle qu'ils aimaient dans un combat juridique qui risquait de prendre le pas sur l'humain. La paperasse écraserait les émotions. Maintenant que la machine était enclenchée, il était impossible de faire demi-tour. Et Lucie se demanda jusqu'où irait ce bras de fer. Se ressaisissant, elle fit une rapide recherche sur Internet et n'eut pas de mal à dénicher l'adresse de ce Rémi Calvar grâce à un annuaire. En revanche, son numéro de téléphone n'apparaissait nulle part. Tant pis. Elle entra les données dans le GPS. Son domicile se situait à une cinquantaine de kilomètres, direction le nord-ouest. Avec la circulation, elle en aurait pour 1h30, rien que pour l'aller. De surcroît, il y avait peu de chances que Calvar soit chez lui en pleine journée. Mais elle pourrait au moins laisser sa carte sur place et espérer qu'il la rappelle. En route, elle brancha la clé USB de Loné sur son tableau de bord. Une voix s'éleva alors dans l'habitacle.
J'avais tellement froid. Un courant glacial m'enveloppait jusqu'aux os. J'ai fermé un bref instant les yeux, j'étais fatigué. Et quand je les ai rouverts, j'ai vu mon visage effrayé, comme collé au plafond. C'était une vision si terrible que j'ai tourné la tête sur la gauche pour l'éviter. Et c'est là que j'ai vu cette fois mon propre corps allongé dans un lit d'hôpital. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Il y avait 3 personnes autour de moi, dont 2 étaient habillées en bleu. L'une d'elles était en train d'envoyer des décharges en comptant. Mon corps s'arc-boutait. J'entends encore le bruit horrible de l'électricité qui traverse ma chair. Je vois précisément ce qui est écrit sur l'une des électrodes que tient celui que je suppose être le médecin, Philips DFM 100.
Le timbre était monocorde. Le débit lent. Rémi Calvar semblait être sous calmant. Il y avait dans cet enregistrement quelque chose d'hypnotique et d'angoissant en même temps.
Mon esprit était comme un ballon de baudruche gonflé à l'hélium. Il s'est mis à rebondir contre le plafond et moi, j'essayais de pousser vers le bas parce que je voulais à tout prix atterrir sur le sol. Mais j'en étais incapable. Et puis je n'ai plus rien eu à quoi me raccrocher et j'ai commencé à tournoyer, à faire des cercles de plus en plus rapides. Et plus ça allait vite, plus j'entendais des rires méchants, des ricanements. Ils étaient vraiment terrifiants. Ils venaient de partout. J'ai bien tenté de hurler, mais rien ne sortait de ma bouche. Puis, d'un coup, j'ai senti des mains me tirer vers l'obscurité. Mon corps rapetissait sur le lit, mais je n'arrivais pas à rejoindre la lumière.
Lucie crispa davantage ses doigts sur le volant. Elle pensait au dessin de Dubois, aux mains qui tiraient sur ses vêtements pour l'emmener dans les ténèbres. Elle freina d'un coup, prise subitement dans un embouteillage sur la 86 qu'elle n'avait pas vue, tellement elle était captivée par le témoignage de Calvar. Sa voiture s'était arrêtée à quelques centimètres seulement du pare-choc du véhicule de devant.
Il faisait si noir que je ne distinguais rien. Les mains hostiles continuaient à me pousser violemment sans me laisser le moindre répit. Mes bras étaient tendus devant moi, en croix, avec des boulets aux poignets qui me provoquaient des souffrances insoutenables. Autour de moi, il y avait quatre démons. L'un avait un visage de chauve-souris avec des yeux jaunes. Un autre, celui d'un rat, aux yeux rouges et au long nez de travers. Le démon araignée était peut-être le plus effrayant. Il se déplaçait de profil à la manière d'un crabe. Tous, ils avaient des ongles qui ressemblaient à des rasoirs. J'ai senti leur haine, une haine si grande. Le plus petit, le démon rat, s'est agrippé à moi tel un bébé chimpanzé à sa mère, et il s'est mis à mordre mon ventre. Quand l'obscurité a été moins profonde, j'ai vu qu'alentour tout était détruit. Les arbres, les fleurs, la nature. Il n'y avait pas d'amour, rien de positif. Il coulait une rivière sur ma droite, et des gens brûlaient à l'intérieur, comme empêtrés dans de l'huile bouillante. Ils étaient là par dizaines. Ils hurlaient, ils se repentaient de leurs péchés, impuissants. L'odeur de grillé qui régnait me reste encore aujourd'hui. Elle me hante chaque fois que je m'endors. Des hommes étaient également crucifiés. Il y avait des centaines et des centaines de croix partout, jusqu'en haut des collines carbonisées. Des diables leur transperçaient les jambes, les paumes et le ventre avec des pointes, et d'autres cautérisaient leurs plaies. Puis ils recommençaient comme ça, perpétuellement. Quant à moi, les démons me poussaient toujours vers une espèce de caverne. Au fur et à mesure que j'avançais, j'ai perçu des relents pestilentiels. Il y avait quelque chose dans la caverne, une grande forme noire qui m'attendait. C'était vers ça, vers cette silhouette que je n'arrive pas à visualiser précisément, que les démons m'emmenaient. J'ai alors compris qu'on me traînait en enfer, que si je franchissais l'entrée du tunnel, si je me retrouvais face à cette monstruosité, je serais moi aussi condamné à souffrir pour l'éternité. Vous pouvez arrêter. Arrêtez l'enregistrement, s'il vous plaît. J'en peux plus.
Rémi Calvar était en panique. Il y eut un léger crépitement sur la bande, puis une coupure. Lorsque la voix revint, elle était plus apaisée.
Il y a eu un flash, suivi d'un énorme bourdonnement qui m'a traversé des pieds jusqu'à la tête et est sorti de moi comme une vibration. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me suis reconnecté avec mon corps, au chaud, enfin au chaud. Allongé dans ce lit d'hôpital où je m'étais vu d'en haut, je savais que je vivrais. C'est la dernière chose dont je me souvienne.
C'était terminé cette fois. Lucie arracha la clé du port USB et la balança dans le vide-poche, nerveuse. Ce récit était effroyable. Tout ça ne pouvait pas être vrai. Un pur délire de l'esprit, voilà ce que c'était. Un œil sur la route, un autre sur l'écran de son téléphone, elle tapa « Philips DFM 100 ». La page de résultats afficha des modèles de défibrillateurs. Calvar avait lu ces données précises alors qu'il flottait au-dessus de son propre corps. C'est en tout cas ce qu'il prétendait, Mais peut-être avait-il déjà croisé ses références ailleurs, bien avant son arrêt cardiaque. Dans un autre hôpital, peut-être, ou dans le cadre de son métier. Ce qui était certain, c'est qu'il ne s'agissait que de paroles. Terribles, certes, mais rien qui pût être prouvé. En attendant, Lucie, elle, ne savait plus quoi penser. Après Pontoise, les perspectives s'ouvrirent. Les derniers remparts de béton furent engloutis par les pleines gorgées d'eau, les bois noirs aux arbres serrés et dépouillés, les petites routes slalomant entre les vallons où rampaient des langues de brume. Se déployait un monde plus rural, où le temps s'écoulait à un rythme différent de celui de Paris. Le genre d'endroit dans lequel Lucie aurait bien aimé vieillir, quand les enfants seraient partis et qu'elle aurait laissé sa carrière de flic derrière elle. Soudain, le brouillard s'abattit sur elle comme une enclume, rendant la circulation dangereuse. Quasiment à ce moment, le GPS lui indiqua de tourner à gauche, sur un chemin étroit et boueux, à peine visible tant la végétation était dense. Son accès était d'ailleurs protégé par un panneau « propriété privée », aux trois quarts recouvert de mousse. Elle s'y engagea malgré tout, et progressa sur une centaine de mètres au ralenti, le long de vieilles clôtures de barbelés, avant d'atteindre un portail rouillé. En retrait, sur un terrain en friche, siégeait une solide bâtisse en pierre blanche, mangée par un lierre qui permettait tout juste d'entrevoir les fenêtres obstruées par des planches. La maison était, selon toute vraisemblance, à l'abandon. Lucie sortit de son véhicule, déçue. Seule, au milieu de la campagne, dans ce froid humide et les pieds dans la boue. Qu'est-ce qu'elle foutait là, bon sang ? Elle s'apprêtait à renoncer, quand elle distingua un abri à voiture sur la droite de la demeure. Elle ne voyait pas clairement à cause de la brume, mais elle avait l'impression que... Elle poussa le portail qui s'entrebâilla et remonta l'allée envahie de mauvaises herbes. C'était bien ce qu'elle pensait. Sous l'abri, une bâche noire, poussiéreuse, dissimulait un véhicule. Elle la souleva pour découvrir une berline qui avait plutôt l'air en bon état. Elle était verrouillée, mais l'intérieur semblait propre. Immédiatement, le cerveau reptilien de Lucie se mit en alerte.